Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'aventure de la conscience, le chapitre 17, la transformation. Et la deuxième phase que je vais continuer aujourd'hui s'appelle le subconscient. Tout le travail du pionnier de l'évolution à n'importe quel niveau consiste précisément à joindre le nouveau au et l'ancien pas. Quand le haut rencontre le bas, un cycle évolutif s'achève. De même, lorsque le pionnier de l'évolution mentale émerge tout d'un coup dans le supramental, sa découverte n'est pas une magie soudaine qui renverse les lois anciennes. Il ne saute pas plus à l'homme supramental complet que l'homme de Néandertal ne saute à Platon. Il doit supramentaliser tous les degrés précédents. Certes, le sommet suprême et le fond suprême se rencontrent dans sa conscience. Certes, le sommet suprême et le fond suprême se rencontrent dans la conscience, l'esprit et la matière, le positif et le négatif, et ses pouvoirs sont naturellement considérablement accrus. Mais finalement, ils ne sont accrus que lorsque, proportionnellement aux résistances nouvelles, qu'il va rencontrer. Car plus l'évolution progresse, plus elle touche des couches profondes. Le principe de vie ordinaire, tout juste la croûte matérielle du monde. Le principe mental colonise tant bien que mal son passé immédiat. Le subconscient mental et les dérèglements anciens de la vie et le principe supramental affrontent non seulement le subconscient mental et vital, mais un passé plus lointain encore. Le subconscient physique et l'inconscient, plus on s'élève, plus on est tiré en bas. L'évolution ne va pas de plus en plus haut, dans plus en plus de ciel, mais de plus en plus profond, et chaque cycle ou chaque cercle évolutif se reforme un peu plus bas, un peu plus près du centre, où se rejoignent finalement le haut et le bas suprême, le ciel et la terre. Le pionnier doit donc nettoyer le terrain intermédiaire mental, vital et matériel, afin que dans les deux pôles se rencontrent effectivement, quand la jonction sera faite, pas seulement mentalement et vitalement, mais matériellement. L'esprit émergera dans la matière, dans un être supramental complet et dans un corps supramental complet. Et la terre deviendra la demeure manifeste de l'esprit. De Savitri de Sri Aurobindo. Ce nettoyage du terrain intermédiaire est toute l'histoire de Sri Aurobindo et de la mère. Les difficultés d'adaptation du corps à l'agni supramental sont peut-être finalement des difficultés voulues et nécessaires. Peut-être n'est-ce pas vraiment une difficulté matérielle, mais une difficulté stratégique. Si, l'on peut dire, Sri Aurobindo et la mère, en effet, allaient s'apercevoir au cours de cette deuxième phase que la transformation n'est pas seulement un problème individuel, mais terrestre, et qu'il n'y a pas de transformation individuelle possible, ou du moins complète, sans un minimum de transformation collective. Du jour où les conditions d'évolution collective seront suffisamment avancées, il est probable que les difficultés matérielles actuelles de la transformation qui paraissent insurmontables s'écrouleront d'un seul coup comme un château de cartes. Il n'y a pas jamais d'impossibilité. Il n'y a que des moments venus ou pas venus. Tous les obstacles, de quelque ordre qu'ils soient, s'avère toujours à l'expérience du précieux auxiliaire d'une vérité dont nous ne devenons pas encore le sens ni les intentions. Alors je répète parce que c'est très important. Il n'y a jamais d'impossibilité. Il n'y a que des moments venus ou pas venus. Tous les obstacles, de quelque ordre qu'ils soient, s'avèrent toujours à l'expérience de précieux auxiliaires d'une vérité dont nous ne devinons pas encore le sens ni les intentions. Avec notre vision extérieure superficielle, un problème d'ordre matériel, parce que nous mettons toujours la charrue avant les bœufs. Mais en vérité, toutes les difficultés sont intérieures et psychologiques. Les difficultés spectaculaires d'adaptation du corps à cette agni bouillonnante sont sans doute moins des difficultés pratiques, matérielles, qu'une difficulté de la conscience terrestre tout entière. Nous allons voir. Nous parlons par énigme. Nous éclairerons mieux le problème auquel Sri Aurobindo et la mère allaient bientôt se heurter en citant cette simple remarque de Sri Aurobindo. À un disciple. J'ai drainé la boue subconsciente. La lumière supramentale commençait à descendre avant novembre. Puis la boue s'est levée et tout est arrêté. Une fois de plus, Sri Aurobindo vérifiait non plus individuellement, cette fois mais collectivement, que si l'on tire une lumière un peu forte, toute l'obscurité d'en dessous gémit violet. Il est curieux de noter que chaque fois que Sri Aurobindo et la mère ont eu quelques expériences nouvelles marquant un progrès dans la transformation, ce progrès s'est automatiquement traduit dans la conscience des disciples, sans même qu'ils n'en sachent rien. Par une période de difficultés accrues, parfois même des révoltes ou des maladies, comme si tout se mettait à grincer. Alors, on commence à comprendre le mécanisme. Si l'on se soumettait brusquement un pauvre pygmée à la simple lumière mentale d'un homme cultivé, nous assisterions probablement à des révolutions souterraines qui nous assisterions probablement à des révolutions souterraines qui traumatiseraient le pauvre bougre et le rendraient fou. Il y a encore trop de forêts vierges en dessous. Le monde est encore plein de forêts vierges. Voilà toute l'affaire en deux mots. Mais notre colonisation mentale est une croûte minuscule sur un quaternaire à peine sec. Les rishis védiques, parlant des forces ou des êtres subconscients, disaient « ce qui couvre », « ceux qui dévorent », « les voleurs de soleil ». On ne saurait mieux dire, ce sont de terribles voleurs. À peine a-t-on fait un progrès, attiré une lumière nouvelle, une vibration un peu plus intense, que l'on est tout d'un coup comme coiffé, tiré en bas, sous une cloche suffocante où tous se dégringolent dans une terrible moiteur. La vibration si harmonieuse de la veille, si claire, si lumineuse, si souple, est d'un seul coup couverte d'une épaisse gluante, comme s'il fallait traverser des kilomètres de sargasses pour retrouver un bout de lumière. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on fait est comme pourri, décomposé par cette invasion d'en bas. Plus rien n'a de sens, et pourtant, extérieurement, les conditions sont les mêmes, rien n'est changé. C'est une sorte de lutte nouée, dit Sri Aurobindo, où aucun côté ne fait d'avance appréciable, un peu comme dans la guerre des tranchées en Europe. La force spirituelle insiste dans la résistance du monde physique et cette résistance dispute chaque pouce de terrain en faisant des contre-attaques plus ou moins effectives. S'il n'y avait pas la force et l'ananda au-dedans, ce serait un travail harassant et dégoûtant. La bataille semble interminable. On creuse et creuse, disaient les rishis. Et plus on creuse, plus le fond semble reculer. J'ai creusé, creusé. Bien des atomes, j'ai peiné nuit et jour. Les aurores me vieillissent, l'âge diminue, la gloire de nos corps. Ainsi se plaignait Lopamudra. Il y a des millénaires, l'épouse du grand Rishi Agastya, qui cherchait aussi la transformation. Même les hommes d'autrefois, qui avaient l'expérience de la vérité, et qui parlaient aux dieux, ils n'atteignent point la fin. Mais Agastya, le grand Rishi, ne se laisse pas décourager, et sa réponse est si magnifiquement caractéristique de ces conséquences qu'étaient les Rishis, de ces conquérants victorieux qu'étaient les Rishis. Point n'est vain le labeur que les dieux protègent. Alors, goûtons toutes les forces contestantes, conquérant ici même en vérité. Livrons cette course et cette bataille au sans-tête. Et vraiment, c'est comme une hydre, nuit après nuit, dans son sommeil, les yeux grands ouverts, le chercheur découvre des mondes bien étranges. Il déverse un à un les lieux où prennent naissance toutes les perversions humaines, les guerres humaines, les camps de concentration humains. C'est là-bas que se prépare l'ici. Ils attrapent dans leurs trous toutes les forces sordides qui animent les hommes, petits et cruels. Découverte solitaire, en des royaumes menaçants, gardés du soleil comme des cités termites. Savitri de Sri Aurobindo. Et de plus en plus, la lumière, de plus en plus, on découvre l'obscurité à la trace. Nuit après nuit, se révèle le pourrissement sournois qui mine la vie. Comment pourrait-on en transformer quoi que ce soit, tant que c'est nécessaire, tant que cette névrose est toujours là? Et comme notre mental ou notre vital sont déjà trop établis dans la vérité, trop clairs pour être attaqués par ces forces souterraines, c'est le corps qui souffre. C'est le corps qui souffre parce que c'est le dernier repère du mensonge. C'est extrêmement, extrêmement important ce que je viens de lire. C'est-à-dire quand notre mental et notre vital sont déjà établis dans la vérité, c'est le corps qui souffre, parce que c'est le dernier repère du mensonge. On voit alors très bien quelles complications les maladies ou la mort entrent dans le corps. Chaque défaite là-bas est une défaite ici. Et l'on comprend tangiblement, concrètement, en détail, l'énorme vanité de ceux qui croient guérir le monde par des moyens extérieurs et des institutions nouvelles. À peine le mal est-il guéri, ici, exterminé là-bas, plus il ressuscite ailleurs, en d'autres coins, en d'autres formes. Le mal n'est pas dehors, il est dedans, dessous. Et tant que l'un n'aura pas guéri cette maladie-là, le monde ne peut pas guérir. Sri Aurobindo l'a dit, les vieux dieux savent transmigrer. Alors, c'est fantastique parce que je termine l'aventure de la conscience. Le chapitre 17, la transformation, écrit par Satprem. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Mère de me permettre à Auroville Radio de lire l'aventure de la conscience écrit par Satprem. Merci Priya, Ganga Lakshmi, Savitri Bhavan, House of Mother Agenda. Thank you, Priya.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.